Père Rosier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc l'auteur de plusieurs livres sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et plus particulièrement l'histoire de la mission de Nouvelle-Calédonie. Et en 1990, vous avez publié un livre intitulé « La Nouvelle-Calédonie ancienne ». Alors, j'ai envie de vous demander tout de suite combien de temps vous avez mis pour écrire un tel ouvrage ?
Question de temps, c'est un peu difficile parce que c'est un peu l'ouvrage de ma vie. J'ai commencé à m'intéresser à la Calédonie quand j'étais au séminaire. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les archives générales des missionnaires de la Société de Marie, des pères, un peu plus tard celle des frères aussi, mais c'est surtout celle des pères. Et très tôt, j'ai pu prendre contact avec des lettres de Monseigneur Douard, du Père Rougeron, à même, direct, c'est-à-dire des originaux. Et j'ai constaté que nous avions eu la chance d'avoir un père très conservateur de documents et qui, pour toute cette période-là, pratiquement a tout conservé. Or, il faut savoir, et vous le savez aussi bien que moi, que à cette époque-là, il n'y avait ni avion, ni téléphone, ni autre chose, et que si on voulait savoir les renseignements de ces pays-là, il fallait les écrire. Par conséquent, ce sont de longues lettres, moins fréquentes qu'aujourd'hui, bien entendu, mais qui sont des lettres qui, pour toute une période, racontent vraiment un devenir d'une période. Et je me suis un petit peu plongé là-dedans. J'ai fait des petits tableaux, on a fait des placements des pères, on a fini par se familiariser. J'étais avec le père Mounier qui vient de mourir l'année dernière, Nouvelles-Hébrides, et nous nous intéressions au passé de la mission. Et donc la Calédonie pour moi est devenue familière dès les années, un petit peu avant 50. J'y ai travaillé sporadiquement à plusieurs reprises, en particulier vers les années 60, où on m'avait demandé de faire plus spécifiquement l'histoire de la mission, où donc, alors à cette époque-là, je me suis lancé dans les recherches, alors proprement historiques, des archives de Rome au Vatican. Nos archives ayant à cette époque-là aussi réintégré les archives générales des Pères Maristes à Rome. Au Vatican, j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé à Paris dans les archives des affaires étrangères, de la France d'outre-mer, notamment. Et donc j'ai ramassé beaucoup de choses, beaucoup de documents sur toute cette période. J'ai toujours eu, depuis toujours, l'envie de faire quelque chose sur les 20 années, premières années de la mission, de nos missions d'Océanie, et en particulier de celle d'Océanie, de celle de Nouvelle-Calédonie.
Alors, j'ai envie de vous poser une question, si vous vous souvenez, puisque ce livre donc est sorti en 1990, combien de documents avez-vous compulsé pour écrire ce livre ?
Bon, je n'ai pas compté très spécifiquement, mais si on compte absolument tous les documents aller-retour, c'est-à-dire, puisque je suis allé, j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'ai complété ma documentation en 84, où je suis resté 6 mois à travailler dans les archives de Nouméa. Donc, en comptant les allers-retours, j'appelle allers-retours, toute la documentation sur place à Nouméa, puis toute la documentation en France et à Rome, on peut parler de plus de 4000 documents, certainement.
Et donc, une majorité de ces documents n'étaient jusqu'à ce jour pas connus.
Mais on peut parler de documents tout à fait inédits pour la plus que grande majorité. Étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup d'histoires de la Nouvelle-Calédonie, il y a eu quelques essais, notamment en 1892, la faveur des retrouvailles, si j'ose dire, des mémoires du commandant Kando qui accompagnait le commandant Février des Pointes qui a fait la prise de possession en 53 et que un aumônier de l'école navale de Brest, connaissant la famille, a pu traiter. Il a fait les premières années de la mission, mais un petit peu à la manière où en 92, où il était de bon ton de le faire. C'était la grande époque du colonialisme, et de la main dans la main autant que possible avec mission et marins. C'est une manière de voir l'histoire, mais on peut pas dire qu'il y a eu vraiment à proprement parler d'histoire. Et pour la colonie, qui fait le fond de la question, la colonie elle-même a eu des essais, des études, M. Brault, etc., mais il n'y a pas proprement parlé vraiment d'histoire fondamentale de ces pays.
Donc la richesse de ce livre, La Nouvelle-Calédonie ancienne, c'est précisément tout cet apport très riche.
Exactement. Et c'est la raison pour laquelle, du reste, j'ai voulu, notamment pour fixer les choses du point de vue ethnographique, parce que, bon, les missionnaires ont fourni la documentation pendant une dizaine d'années, et de 1943, et puis ensuite, je me suis documenté pour tout ce qui était antérieur, et pour ce premier livre, qui est l'histoire générale de la Calédonie depuis les temps anciens jusqu'en 1853, c'est évident que la documentation missionnaire a été importante vers la fin de la période. Eh bien, on dit un peu toujours que les missionnaires n'y connaissaient pas grand-chose, c'est entièrement faux. Quand on voit à quel point le simple rapport du commandant de navire, qui a été le premier à les amener, à les accompagner, a fait, avec une sympathie assez incroyable, et puis quand on prend 3 ans après la première lettre du père Rougeron, faisant un tour de la question générale de l'ethnographie, on se rend compte quand même qu'il y a peu de monde aujourd'hui qui ferait quelque chose de semblable.
Ouais. Et alors, donc précisément, si les missionnaires ont eu un rôle considérable dans cette première approche auprès de la population, et précisément, votre livre s'arrête donc juste au moment de la prise de possession.
Voilà, j'ai toujours voulu faire ça parce que j'ai toujours compris que quand on ferait l'histoire, on mélangerait indéfiniment colonie française en faisant sans cesse de l'anti-mémoire ou même de l'anti-histoire en transportant de manière anachronique des choses connues après sur cette période des tâtonnements avant. Il ne faut pas oublier que les missionnaires ne se sont pas installés en Calédonie. Ils ont été chassés 2 ou 3 fois avant d'y prendre pied.
Donc ce livre nous raconte l'histoire donc de la Nouvelle-Calédonie jusqu'en 1853. Est-ce que vous pensez continuer cette histoire ultérieurement ?
Bon, alors d'abord j'ai continué parce que naturellement quand j'ai travaillé, je me suis documenté sur une période beaucoup plus grande que ce que je faisais, mais je n'ai jamais voulu utiliser de documents postérieurs à 1853. Et la raison pour laquelle ce livre sera différent de ce que seront probablement les suivants, qui seront plutôt sur l'histoire de la mission, c'est que dans les premiers temps, on approche comme on peut les Calédoniens avec, par exemple, Cook et d'Entrecasteaux, avec tous les problèmes que vous devez connaître. Ils n'étaient pas pareils que ceux que rencontrait tel marin anglais, que ceux que rencontrait tel marin français à 20 ans de distance, qu'est-ce qui s'était passé entre les deux. Il y a eu plusieurs thèses là-dessus qui sont... Et je crois que c'est ça qui est la grande chance de ces tâtonnements du début. On ne sait pas d'avance qui sont les Kanaks. Grande chance à ceux qui aujourd'hui croient le savoir.
Eh bien, Père Rosier, merci pour toutes ces précisions. Et donc, nous vous retrouverons dans une prochaine émission qui aura pour titre votre livre suivant, c'est-à-dire « L'Église sur le caillou ».